Hop là, c'est beaucoup mieux si je vous laisse pas du son derrière. Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, on va vous parler de petites pilules qui fait des miracles. On va vous parler de pirates, on va vous parler d'arc-en-ciel, on va vous parler de plein de choses. Mais en attendant, attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Il n'est pas fait pour ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, on est ensemble pour une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. L'émission de ce soir sera un petit peu en impro. J'avais prévu de parler d'autre chose, mais on va y aller freestyle. Déjà un petit point sur les actualités du financement participatif. Vous le savez, je vois beaucoup de personnes passer dans le studio et me parler de bande dessinée. Et puis il y a des gens qui deviennent des copains. Et il y a par exemple l'ami Tony Emeriot et l'ami Boris Bezlin qui sont déjà venus un certain nombre de fois pour nous parler de Paria, leur bande dessinée. J'ai perdu comment l'appeler Boris. C'est pas du steampunk, c'est du rétro-puring, je ne sais plus. Je vais le retrouver, c'est pas grave. Tout ça pour dire que le financement participatif continue sur la plateforme Ulule. Pour l'instant, le financement est déjà fait avec 192% du financement demandé, ce qui est déjà un beau succès, mais qui a encore besoin de vous. Les contributions sont encore faisables pendant une vingtaine de jours. N'hésitez pas à y aller. C'est vraiment sympa. Voilà, il faut. Il y a un autre financement dont j'aurais voulu vous parler, mais que je ne retrouve pas forcément, si je l'ai trouvé. C'est La Légende d'Elina et d'Abraxom de JMX Studio, qui est déjà l'origine de Space Kittens, que l'on retrouvera certainement à la radio. Là, le financement, je pourrais pas en reparler la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, puisqu'il sera fini, puisqu'il ne reste que 13 jours. Il a pas encore atteint ses objectifs, mais je compte sur vous pour aller donner un coup de boost. C'est une histoire avec une dryade et des dragons. Voilà, si vous avez envie, ça change un petit peu du style habituel de Jean-Mathias et ça garde une certaine douceur. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment ultra beau, c'est très intéressant. On aura sans doute l'occasion de reparler avec Jean-Mathias lorsque la parution se sera faite, mais ça va être un petit peu court pour en parler dans l'émission pendant le financement participatif. Je plisse les yeux parce que j'ai un fichu soleil qui m'embête, mais bon. On est là pour parler bande dessinée, donc les financements participatifs, hein, n'hésitez pas à y aller sur Ulule pour ces deux financements-là. Ce soir, on va commencer avec deux ouvrages jeunesse, principalement, avec Les Petits Voyageurs de l'Art de Carbone et Moonly, publiés aux éditions Kenes. Alors, ça commence à avoir quelques mois de sortie déjà. Comment dire ? C'est l'histoire de deux jeunes enfants qui, grâce à leur maman, ont une espèce de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de voyager à travers les œuvres d'art. Donc, faut pas qu'ils se fassent choper, faut pas qu'ils se fassent voir, mais ils ont une espèce de petite montre et puis ils ont 5 secondes pour rentrer dans un tableau. Et un jour qu'ils sont au musée du Louvre, ils vont rentrer dans un tout petit tableau que personne ne connaît, une certaine Joconde. Voilà. Et ils vont se retrouver quelques décennies, quelques centaines d'années avant, au Clos Lucé, et ils vont rencontrer... Mince, je ne sais plus. Léonard de Vinci. Donc c'est une petite BD qui est très pédagogique, qui a été réalisée en partie lors de la... je vais y arriver, lors de la résidence à la Bulle, la médiathèque de Mazé, qui est pas très très loin d'Angers, que je salue au coucou. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, les enfants vont pouvoir découvrir les œuvres d'art, vont pouvoir découvrir ce que c'était, qui était Léonard de Vinci, quelles sont les hypothèses qui ont été mises sur cette Joconde, qui est l'identité de cette Joconde. C'est des petites BD pédagogiques qui fonctionnent bien. Graphiquement, c'est plutôt agréable à lire. Ça marche bien pour les enfants. C'est un ouvrage à mettre entre les mains. Juste après, vous avez en plus à la toute fin un petit cahier avec des quiz, avec des choses complémentaires sur Léonard de Vinci, ses œuvres les plus connues, la façon dont il pouvait travailler, et puis quelques petites questions sur la fameuse Joconde. Donc une petite série qui, selon moi, commence, puisqu'on pourra avoir d'autres ouvrages dans la même collection, ce qui pourrait être vraiment cool. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, je vous redonne les références, c'est Les Petits Voyageurs de l'Art. C'est le premier tome, mais sur la Joconde. C'est publié aux éditions Kenes. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux parler à la radio. Je suis en compagnie de Richard, qui va pouvoir prendre ce micro-là. Tu vas pouvoir chausser ce casque-ci. Je vais te mettre ton micro. Bonsoir Richard.
Salut Seb. J'essaie d'être discret.
T'essaies d'être discret, mais en même temps, je sens que tu es curieux et que tu as envie de partager un petit peu tout ça.
Je profite pour une fois que je peux écouter une émission en auditeur libre dans le studio. Ça a l'air cool. Ça a l'air hyper cool et il y a grave un potentiel de faire des tomes sur chaque tableau et tout ça, quoi.
Et puis les tableaux sont des portes ouvertes vers des aventures. Et là, c'est d'autant plus l'occasion de faire vivre ces aventures à différents enfants. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai pas lu les autres, mais ce sera l'occasion de se pencher dessus lors des prochaines sorties. Tu voulais rajouter quelque chose, toi, dessus ou
Pour le coup...
J'aime bien que les gens donnent leurs avis sur les albums qu'ils
découvrent. Le style est plutôt cool. J'ai pas vu le dossier à la fin, mais effectivement, ils indiquent sur la quatrième qu'il y a un dossier pédagogique inclus. Je regarde un petit peu en vitesse.
Vas-y, hein. Et n'hésite pas à décrire au fur et à mesure ce que tu vois, ce qui t'interpelle.
Dans le dossier à la fin, effectivement, il y a le savais-tu avec... une dizaine d'informations sur Léonard de Vinci. On a aussi une dizaine d'œuvres de sa part, des dessins, mais aussi des peintures. Et puis les recherches graphiques de l'album, en fait, de l'illustration et tout ça. Non, c'est vraiment cool.
Ok. Eh bien, super. Donc, n'hésitez pas à le faire découvrir à vos enfants. C'est plutôt des BD qui sont éducatives et qui sont pas rébarbatives. C'est vraiment pas un livre d'histoire, c'est vraiment pas un livre de science. Et du coup, ça permet aux enfants d'apprendre pas mal de choses, ce qui est plutôt cool. On va partir en voyage avec quelque chose complètement différent. Est-ce que tu connais Animal Crossing ?
Oui, je connais ça.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui, parmi l'assistance, mes chers auditeurs, ne connaissent pas Animal Crossing ? Levez la main. Je vous vois pas, donc je considère que tout le monde connaît Animal Crossing. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un petit manga qui a été publié aux éditions Soleil, qui est sorti il y a peu de temps, qui a été dessiné et scénarisé par Minori Kato, qui s'appelle Animal Crossing, l'île de la détente. Et alors, je l'avais déjà dit d'un précédent manga Animal Crossing, mais là, on est vraiment sur le mode d'emploi qu'on aurait aimé avoir dans le jeu Animal Crossing New Horizons. L'histoire, c'est celle d'une petite jeune fille qui s'appelle Anna et qui, alors qu'elle se promène avec ses parents sur une île déserte, va suivre un animal qui ressemble à un raton laveur pour elle. Et elle va débarquer sur une île où on lui dit « bah écoute, t'as gagné des vacances sur une île ». Et elle comprend pas qui sont ces petits ratons laveurs, qui sont en fait des tanoukis. Puisqu'elle vient de croiser Tom Nook et ses deux compagnons, j'ai perdu Melly et Mello, sur Animal Crossing. Et du coup, en fait, on va vraiment avoir, ce manga, c'est quasiment un didacticiel pour jouer à Animal Crossing. On va, avec la petite Anna, découvrir comment fonctionne l'île, que effectivement peut-être qu'on doit une forte somme à Tom Nook, mais que c'est plutôt facile de la rembourser, que dès qu'on va vouloir faire des travaux, on peut aller demander des choses, et qu'on va pouvoir vraiment aller de plus en plus loin. Et c'est un manga qui est plutôt sympa, qui dépayse bien. Alors si vous connaissez déjà Animal Crossing et que vous y jouez beaucoup, forcément il y a des choses que vous connaissez déjà, et ça va peut-être faire un peu redite. Par contre, si vous n'avez jamais joué à Animal Crossing, clairement, lisez-le et vous pouvez lancer une partie. Il n'y a pas de problème, ça va tourner facilement dans votre console après avoir tout compris.
Je peux me permettre ?
Mais vas-y, je t'en prie.
En fait, ce qui m'a fait tiquer, parce que j'ai attrapé le manga en question, c'est pas la première fois que Animal Crossing est adapté en manga, et d'autant plus qu'ils font la pub à la fin sur la ouais. couverture. Il y a le journal de Lille aussi qui existe. Et c'est bizarre parce qu'en fait, ils font deux séries sur le même jeu. Ils auraient pu faire sur un jeu différent parce que c'est une série de jeux. Mais non.
Non, c'est sur le même jeu. Alors, le journal de Lille, j'en ai parlé il y a un petit moment, et la thématique et la façon de présenter est complètement différente. On suit des personnages qui vont vraiment faire n'importe quoi, alors que là, Anna, elle découvre l'île et elle se conforme à ses règles comme un joueur, en fait.
Ok.
Alors que l'autre est beaucoup plus axé dans un humour un peu absurde.
On est plus sur du gag, en fait.
Oh, ouais. Ouais, okay. Ouais, beaucoup plus.
Vous avez fait pareil avec le manga Layton. Je suis un grand fan de Layton, donc voilà.
Bah écoute, la prochaine fois, s'il y a un nouveau Layton qui sort, et je crois que c'est dans les tuyaux, donc...
Il y a un jeu vidéo qui sort, mais pas un manga.
Ah, pas un manga, mais peut-être qu'il sortira en manga, on sait jamais. Ok, hop, je prends au fur et à mesure les choses qui me passent sous la main. Je vais garder les choses un peu plus adultes pour la fin. Là, on pourrait parler aussi de Neko Damari, qui s'est sous-titré Nid de chat. C'est chez, c'est de Gumoto, publié aux éditions Ototo. C'est un manga qui parle de chat. Si vous n'aimez pas les chats, je pense que vous aurez du mal avec ce manga-là. C'est une manga tranche de vie où on va suivre une jeune femme qui vit avec trois chats avec des personnalités différentes. Et ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'on ne suit pas que les tranches de vie de l'héroïne, on suit aussi les tranches de vie du chat. C'est-à-dire que l'héroïne, elle rentre, elle vit sa vie, elle fait des commentaires sur ses chats, et le chapitre d'après, c'est à peu près la même séquence, mais vu du point de vue du chat, qui comprend pas cette humaine, qui est incapable de ranger ses affaires, qui met en bazar le territoire du chat, qui vient les embêter. Et ces trois chats ont trois personnalités complètement différentes. Il y en a un qui est plutôt jeune et tout fou, et qui a l'air de ne pas comprendre les règles tacites des chats. Il y en a un qui est plutôt austère, et l'autre qui est un peu le gros patapouf, l'espèce de gros chat, plutôt un repose-pied qu'un chat. Et ça marche bien. C'est pas un manga orienté jeunesse comme Shubi, par exemple. C'est un manga qui est un peu plus adulte, ne serait-ce que par l'âge de son héroïne ou le design des personnages. Mais ça marche bien. Ça peut plaire aussi à un jeune public, sans trop de problèmes. Le dessin est plutôt efficace. On est sur un découpage qui est plus classique, mais ça marche bien. Puis on a des chats qui ont des tronches.
Oui,
voilà, c'est des tronches de chats. Donc je pense que Gumoto a certainement des chats dont il s'est inspiré pour ça. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, pas grand-chose. Après, niveau manga de chats, bah, je connais le plus connu, Shubi.
Shi aussi, ouais.
Mais autrement, non, l'idée en fait de... Alors je l'ai pas lu, hein, je le découvre en même temps que tes auditeurs, mais l'idée de effectivement changer de point de vue à chaque chapitre, c'est cool. Est-ce que il y a un chapitre humain, mais après j'imagine qu'à chaque chapitre chat, c'est un chat différent, c'est pas
en commun. Ouais, c'est ça. On peut avoir le point de vue de chaque chat, mais c'est pas forcément. Ils ont pas gardé un enchaînement humain et ensuite la même chose du point de vue du chat. C'est variable en fait. On va alterner de l'humain, du chat, la même séquence d'un point de vue, puis d'un autre, et puis on passe à autre chose, ce qui est plutôt agréable et frais quand même.
Ah oui, c'est indiqué dans les toutes dernières pages, comme quoi le chat domestique de l'autrice a servi de modèle.
Ah bah voilà. Comme quoi je lis pas tout, en fait.
Moi, j'adore, en fait, fouiller vraiment, tu sais, genre les
petites choses comme
les
ça.
Les petites choses comme ça, voir la couverture originale qui est sous notre couverture
souvent,
plastique
ouais.
à nous. J'adore voir ça.
Sous les petites jaquettes. Ouais. C'est-à-dire que des fois, t'as des grosses vannes qui sont planquées sous les jaquettes.
Ouais, ouais, ouais.
Ma fille m'a fait découvrir, je lui fais un bisou d'ailleurs, Komi cherche ses mots, qui est un manga sur l'anxiété sociale. Ouais. Et sous une des jaquettes, il y a un des personnages qui dit « Donc tu regardes en dessous ». Et là tu fais « Ok, c'est bon, je suis détendu ». est-ce que tu veux écouter quelque chose musicalement pendant la pause ?
J'ai le droit de choisir.
Ouais.
Je vais te proposer mon groupe préféré.
Vas-y.
Magoyonde.
Magoyonde.
Hop. Je sais pas si tu connais.
Ouais. Ah. Alors je suis pas un expert, mais tu veux quelle chanson ?
Magoyonde. La dernière fois j'ai passé le village et cette fois-ci on va passer le Goliath Paradise.
Le Goliath Paradise.
Eh ben, en version, mais pas la première parce que tu as un petit peu de, ouais, celle-là.
Version instrumentale. Oh,
t'as pas une version CD? Non.
J'ai pas l'impression.
Bah, mais le clip, c'est pas grave.
On va mettre le clip.
Il va y avoir quelques secondes de chuchotement et puis après ça part.
Ben, c'est pas très très grave. On se retrouve juste après Magoyon et Goliath Paradise. À tout de suite sur le 101.5 de Radio G. Oh, attendez. dans quelques secondes, on y revient. Voilà. Allez, c'est parti. À tout de suite.
Aucune âme qui vive, seulement des chimères. Ce lieu est un mystère, un tripot invisible, un speakeasy sous terre. À la lueur des torches, nous descendons des verres, élaborons des plans pour décharger nos revolvers. Nous voulons plus vivre dans les souterrains. Que quelqu'un nous délivre, nous sommes clandestins. Nous nous cachons pour vivre dans les souterrains des enfers.
Au Goliath Paradise, libérons-nous du mal. Gagnons la capitale, la rébellion s'installe.
Cette nouveau sous terre, ici les humains vivent aux côtés de Lucifer. Vous semblez solitaires, vous êtes pourchassés, vous vivez un calvaire. Oh, mettez-vous donc à l'aise, rencontrez vos compères. Et quand le bar sera vide, on fera sauter la bruyère. Le soulèvement des rescapés, des profondeurs de la cité. L'insurrection s'installe,
car nous sommes clandestins. Nous ne voulons plus vivre dans les souterrains. Que quelqu'un nous délivre, nous sommes clandestins. Nous nous cachons pour vivre dans les souterrains. Au Goliath Paradise.
La rébellion s'installe
au Goliath Paradise, au quartier général.
Au Goliath Paradise, libérons-nous du mal.
Au Goliath Paradise, partons de ce détail.
Au Goliath Paradise, gagnons la capitale.
Au Goliath Paradise, la rébellion s'installe.
Nous ne voulons plus vivre dans les souterrains.
Que quelqu'un nous délivre,
des enfers.
Au courrier paradise, libérons-nous du mal. Gagnons la capitale, la rébellion s'installe.
Courrier paradise.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la caisse de Seb. On vient d'écouter Magoyon et Goliath Paradise, qui a été choisi par Richard. Merci Richard.
Mais de rien.
Bon, c'était un peu cafouillage au départ hein, pour le lancer, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu voudrais entendre après? Comme ça, on la prépare et on sera tranquille.
Je vous en remets une autre si vous voulez.
Eh ben, un autre Magoyon, c'est pas grave.
J'y réfléchis pendant le truc et je te dis.
Je te laisse y réfléchir. Donc, on a parlé des trucs jeunesse, on va parler de trucs un petit peu plus adultes et puis on va garder des trucs encore plus adultes juste après. On va partir toujours, j'ai plein de mangas ce soir, hein, vous inquiétez pas, on va partir du côté des contes de fées, avec deux ouvrages qui parlent d'une bête et d'une belle, mais pas tout à fait de la même manière. Le premier, c'est Beauty and the Beast of Paradise Lost, c'est de Kaori Yuki. Alors ceux qui connaissent le manga, Kaori Yuki, ça doit vous parler. C'est quelqu'un qui a fait un manga qui a pas mal marché, qui s'appelle Angel Sanctuary, il y a de ça un certain nombre d'années. Et qui depuis s'est orienté vers des réécritures de contes de fées. Donc Beauty and the Beast, voilà, normalement ça parle à tout le monde, c'est La Belle et la Bête. Et là on suit l'histoire d'une jeune fille qui est une jeune fille humaine, il paraît, et qui a des cheveux violets. Et du coup sa maman a disparu dans des conditions que je ne vous dévoilerai pas ici. Et son papa l'aime plus ou moins, parce que faut la cacher, parce que comme elle a les cheveux violets, elle est pas comme tout le monde, donc elle a beau s'appeler Belle, tout le monde la trouve moche. Et on a une espèce de bête qui parcourt les contrées et qui essaie d'avoir des filles qu'il trouve belles. Et du coup, la maman en fait va disparaître avec cette bestiole-là. Et Belle, donc tout le monde trouve moche, va essayer de retrouver cette bête pour pouvoir retrouver sa maman et comprendre. Alors, synthétiser comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de choses. C'est Kaori Yuki a toujours fait des choses qui étaient quand même assez denses à la base. Et là, en fait, elle joue beaucoup sur le sens du beau, le mot beau. Belle est moche, mais elle est belle quand même, mais elle se sent moche. Sauf que la bête ne cherche pas forcément le beau, mais il cherche Belle. C'est un peu compliqué comme ça. Mais c'est vraiment sympa. Les designs sont plutôt cool. On a une bête qui est plutôt stylée, avec une espèce de visage complètement toujours dans l'ombre. Un visage noir, je ne sais pas si... je ne sais pas comment le décrire. On a vraiment l'impression d'avoir... tu vois, une espèce de visage qui est complètement absent, où on voit des crocs sortir de la bouche.
Ça fait très démon japonais.
Ouais, je pense qu'il y a cette inspiration-là qui est bien poussée. Avec ce que nous, on prend pour des cornes, qui sont au final ses oreilles. C'est lui qui le dit, hein. Après, moi, j'ai pas été vérifié. On sent... moi, j'ai découvert Kaori Yuki avec Angel Sanctuary, le style était dense, très travaillé, il y avait beaucoup de choses dedans. Là, on se retrouve sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus lisible, beaucoup plus aéré. Il y a moins d'ombrage, il y a moins d'ancrage très fort, et ça donne quelque chose de beaucoup plus digeste. Donc, c'est plutôt cool. Donc, si vous aviez aimé Angel Sanctuary, faut pas hésiter à le lire, parce que c'est la même autrice, et c'est vraiment cool ce qui est fait. Si vous avez besoin de séries qui sont sympas mais qui sont pas trop longues, n'hésitez pas à y aller, puisque c'est une série qui va se finir en 5 tomes, donc c'est une petite série qui est agréable. Il faut le lire pour comprendre le jeu de mots et l'intention narrative de Kaori Yuki dedans, puisque il y a quand même pas mal de choses, et c'est plutôt dense. Donc voilà. Tu veux me donner ton avis du coup, Richard, dessus?
Alors clairement, c'est pas le style de manga qui m'attire. En tout cas, de la thématique. Je connais Angel Sanctuary de nom, c'est ça?
Ouais, c'est ça, Angel Sanctuary. Ouais.
Mais autrement, non, c'est pas sur un truc que j'irais personnellement.
Et t'en penses quoi, là, visuellement? C'est techniquement ce que fait Kaori Yuki, on est plus sur du shoujo. Okay. C'est plus du manga. Avec des beaux effets qui plaisent beaucoup aux jeunes filles.
D'accord.
Et là, le fait d'avoir un monstre, mais qui a quand même cette espèce de d'aura, c'est plutôt sympa.
D'accord, ok. Non, ça, je sais pas quoi te dire tellement c'est dans
c'est pas ton
c'est
truc,
pas
du,
truc
tout.
Du tout. Ah mais des fois je botte en touche. Hein.
Et ben, non mais il faut pas, il faut c'est il faut savoir ce qu'on aime et ce qu'on aime pas. Et puis il y a des choses, c'est juste que ça nous parle pas. Moi, c'est la politique de l'émission, c'est de parler de choses qu'on pense intéressantes pour les auditeurs. Donc, moi, je pense que c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Donc, bah, allez-y. Je vous redonne les références. C'est Beauty and the Beast of Paradise Lost. C'est de Kaori Yuki et c'est publié aux éditions Pika. Et c'est une série en 5 tomes. Donc, voilà. Faut, ça prendra pas trop de place dans les sur la bibliothèque. À contrario, c'est une autre série qui s'appelle Wolf and Parchment. Publié aux éditions Ototo, c'est de Idori, c'est une histoire d'Izuna Azekura et un character design de Jiyu Ayakura. J'ai du mal à prononcer certains noms. Alors, c'est un spin-off d'une série qui s'appelle Spice and Wolf.
Ouais, ça me parlait. Ça okay, le parlait. Visuel me parlait. mais, pas vu, mais c'est connu.
Eh ben, ouais. Moi, je connaissais Spice and Wolf de visuel, je ne les ai jamais lus.
Ok, ouais.
Et on est dans un spin-off suite.
Okay.
Spice and Wolf, ça raconte une histoire assez simple. C'est l'histoire de d'un marchand d'épices qui va quitter un village pour aller faire fortune. Et en farfouillant dans la masse de pots qu'il a à commercialiser, donc des pots de bêtes, il va trouver une jeune femme qui est une femme loup. Et cette femme loup, en fait, elle quitte le village. Elle était censée être une divinité de ce village et le village ne croit plus en elle. Et du coup, elle a fui ce village-là. Et c'est un road movie, hein, on peut le dire, ce manga. Au fil du manga, des relations vont se nouer entre cet homme et cette femme loup. Et là, on va suivre l'histoire de Laurence, qui est un jeune garçon rencontré dans Spice and Wolf, qui lui se destine à devenir prêtre et de Laurence c'est le héros, c'est le marchand d'épices de Spice and Wolf. On va suivre Cole du coup qui est un jeune garçon qui se destine à devenir prêtre qu'on a rencontré dans Spice and Wolf et on va suivre aussi Miyuri qui est la fille de Laurence et Holo, les héros du premier. Et le démarrage est presque le même. Cole décide de partir en pèlerinage pour pouvoir devenir prêtre. Il a des gens à rencontrer, il a des choses à faire. Et il prend une barque. Donc ça va être un périple plutôt maritime. Et dans un des tonneaux qui est sur cette barque, se cache Miyuri, la jeune fille qui est mi-fille, mi-loup, qui va accompagner Cole dans son voyage. J'étais un peu surpris parce que c'est dans la collection Seinen, qui est plutôt signe de maturité, c'est des thématiques qui sont plutôt adultes, et je ne voyais pas au départ, je me suis dit, mince, ça va être un truc à base de romance, ça va être plutôt accessible à tout le monde. Et en fait, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de questionnements sur la religion et la façon dont sont gérés les États. Cole a une vision de la religion qui est au service des gens. Et la religion qui est en place est plutôt élitiste, à drainer les finances et refuse en fait d'aller célébrer des cérémonies type mariage, baptême, dans des lieux où certaines taxes ne leur sont pas versées. Et Cole va... avec d'autres personnes, mettre en place une sorte de, on va dire, coup d'état religieux, puisqu'il veut créer ce qui va être l'équivalent d'une Bible, mais dans une langue que tout le monde peut comprendre. Ce qui fait que chacun pourrait s'approprier la religion. Et donc, ces thématiques-là sont plutôt complexes pour un jeune qui n'a pas... moi, ma fille a 10 ans, hein, elle va trouver ça sympa, mais je pense qu'elle va pas comprendre les implications géopolitiques du truc. Et ça donne un manga qui est très sympa, très doux. Il y a le graphiquement, c'est un trait qui est très fin. Il y a un côté un peu comment dire, un peu grisé. Cette espèce de grisage en fait qui donne un petit peu de sensation de couleur, même s'il y en a pas, et qui marche. Ouais. Il rappelle Spice and Wolf très régulièrement dans le tome 1. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais
Ouais, entre chaque chapitre.
Entre chaque chapitre.
Il y a le titre du manga, donc Wolf and Parchment, et la page d'après, toujours en page de garde, il y a Spice and Wolf. Donc ça indique à chaque chapitre que c'est un.
Que c'est bien relié à la série principale.
Ouais.
Mais c'est vraiment c'est un manga qui est vraiment surprenant. Moi, ça m'a donné envie de prendre la première série et de le découvrir parce que c'est une série qui a une réputation qui est quand même très très bonne. Mmh. Donc c'est l'occasion de découvrir. Ouais, la jaquette, elle est un petit peu, ça fait
elle
vieux bouquin.
Elle est très savoir. Ça fait un peu grimoire en fait.
Ouais.
Mais ouais. Mais pour le coup, c'est intelligent d'avoir mis le personnage féminin qui est plutôt connu, en tout cas pour Spice and Wolf, parce que tu m'as montré, j'ai fait, mais je connais ce design.
Ah bah oui. Mais ça marche bien. C'est vraiment et les personnages sont plutôt intelligents, bien amenés. Miyuri, c'est un personnage qui est un peu foufou, qui est la jeunesse, et puis il y a le côté un peu son côté un peu loup en fait qui prend un peu le dessus, okay. Son côté très instinctif. Et Cole est obligé de la calmer de manière très régulière. Donc ça apporte des choses qui sont vraiment vraiment intéressantes. C'est un duo qui fonctionne bien.
Okay.
Qu'est-ce que tu veux, Pierre Benoît? Ta clé USB, je ne sais pas où elle est. On a des intrusions, des gens de Topette qui veulent pas partir. Voilà, donc deux mangas vraiment sympas. Je redonne les références, hein, du coup. C'est Wolf and Parchment. C'est un spin-off de la série Spice and Wolf. C'est publié aux éditions Ototo. C'est d'Idori, d'Izuna Azekura et de Jiu Ayakura. C'est vraiment très sympa. Donc voilà. Là, je pense que par contre, j'ai pas regardé la durée, mais je pense que là, vous êtes sur une série qui va quand même être un petit peu plus longue. Je pense que ça partira sur au moins une bonne vingtaine de volumes. On va refaire une petite pause musicale.
Eh bien, j'ai menti, je vais pas repasser du Magoyonde.
Tu vas pas repasser du Magoyonde, qu'est-ce non, que tu veux du coup?
Je te propose Carapace Bleue de Kid Ban.
Carapace Bleue, j'aime pas ce mot.
C'est exactement pour ce que tu penses.
Ah non.
C'est un groupe parisien et puis depuis peu nantais puisqu'ils ont déménagé.
T'écris comment Kick Ban?
Kick Ban en fait, K-I-C-K-B-A-N. Et t'as une version CD sur YouTube, je vais vérifier, tu vois t'as la pochette en dessous.
Là, celui-là, ouais. Ok. Et ben on va écouter Carapace Bleue de Kick Ban dans quelques instants. C'est encore un choix de Richard et j'espère qu'il a fait un bon choix. En tout cas, je lui fais confiance. On se retrouve tout à l'heure sur le 101.5 de Radio G.
passe. Même si t'es en première place, je suis sympa et je t'aide à gagner. Ouh yeah, ouh yeah, ouh yeah, yeah. Tu n'as plus de réticence, beaucoup trop d'expérience. Vas-y, rends la manette. Oh, oh, oh.
C'était les Carapaces Bleues, Kick Ban avec chanson Carapace Bleue. Vous êtes de retour sur le 100.5 de Rage. Alors moi, ça me met toujours un malaise, en fait, une Carapace Bleue. J'aime vraiment pas ça.
Ça tue des amitiés.
Ça tue des amitiés, c'est complètement injuste.
Surtout quand tu la gardes pour la fin, donc.
Ouais, c'est ça. Tu te fais ruiner sur la ligne d'arrivée et tu pleures. T'as plus que ça à faire. On va partir dans de la BD un peu plus classique, avec un peu de pirate. C'est pas fait exprès, mais il y a la première bande-annonce de One Piece, la série qui est sortie. Du coup, ça m'a fait un peu pleurer, comme la Carapace Bleue. Mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Je pense que je regarderai, je vous en parlerai ici, parce que ça reste quand même quelque chose qui est lié à la BD. Là, on va parler plutôt de pirate un peu plus classique, avec Anne Bonny, publié aux éditions La Boîte à Bulles, d'Alessandro Rangas. Qui, je suis désolé si je dis des gros mots au lieu de bien prononcer son nom, et de Matteo Mastragostino. Alors, les fans de pirates, Anne Bonny, ça doit vous parler. C'est une des rares femmes pirates qui a une certaine renommée. Et cet ouvrage, c'est l'occasion de se pencher un petit peu sur sa vie, qui elle était avant de devenir pirate. Et quelle a été sa vie en tant que pirate. Et c'est plutôt cool, en fait, parce que ça met en avant un personnage féminin fort qui a eu un vécu pas super simple, hein, autant ne pas vous le cacher. Je vais pas vous refaire toute sa biographie, mais elle est fille illégitime ou issue d'une liaison adultère d'un homme qui va se faire ruiner par sa femme légitime. Ils vont partir très très loin et pour essayer d'échapper un petit peu à cette vindicte créée par sa femme, et va pouvoir essayer de remonter un petit peu la pente avec son papa. Elle va perdre sa maman. Enfin, voilà, une vie ultra classe. Ça, c'est que les 20 premières pages. Hein, voilà. Et elle va finir par s'amouracher d'un pirate et décider de prendre le large. Et encore une fois, la vie ne va pas lui faire de cadeau, puisque le pirate qu'elle a, qui a jeté son dévolu sur elle, ou elle qui a jeté son dévolu sur le pirate, ne va pas être vraiment très cool avec elle. Et puis on va vraiment suivre la façon dont elle va embrasser la piraterie et son destin de femme des mers, qui va passer de presque faire valoir à porte-étendard d'un bateau avec un très fort caractère, et des rencontres aussi qu'elle va pouvoir faire, puisque elle va rencontrer d'autres personnes, ce qui, moi, ne connaissant pas les histoires de pirates ou tous les noms de pirates, mais ayant eu quand même certains noms, m'a fait tilter un moment. Elle rencontre un homme qui a un nom, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'avais pas ce prénom-là, moi, associé à ce nom-là. Donc c'est l'occasion. Graphiquement, on est sur un trait qui est, je sais pas comment l'exprimer, ce trait-là, c'est très souple, il y a beaucoup de circonvolution, il y a beaucoup de choses en fait dedans qui font que les personnages n'ont pas un visage très rond, très lisse. C'est très vivant, ça marche bien. Il y a des trognes avec des plis, il y a un peu de Sergio Leone un peu là-dedans, avec des visages qu'on voit en gros plan, des visages qui font des tronches, et je trouve que ça marche franchement bien. Donc c'est plutôt très agréable à lire, donc c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les histoires de pirates, si vous avez envie d'apprendre des choses sur les pirates, allez-y, parce qu'effectivement c'est vraiment très bien. Tu veux donner ton avis, Richard, dessus?
Non, j'ai pas d'avis dessus. Pareil, c'est pas trop mon style.
C'est pas ton style.
Ouais.
Bon, bah, c'est pas très très grave. Hein.
Je suis plus manga.
T'as été plus manga. Bon, bah, écoute, ce sera l'occasion de te faire découvrir d'autres choses au fur et à mesure. Mais voilà, une histoire, si vous aimez les pirates et si vous aimez aussi sortir un petit peu de la façon dont on raconte des histoires de pirates à la Disney, c'est ça qu'il vous faut. C'est brut, c'est sec. C'est de l'histoire de pirates telle que ça a été vécu. Voilà, si... Si on vous parle de Calico, Calico Check, de Rackham, de voilà, enfin, je vais pas vous citer tous les personnages qu'on peut croiser dedans, mais c'est vraiment très intéressant. Je savais pas trop ce que j'allais voir ou lire en lisant ça. Je sais pas si j'allais lire de la grande épopée. C'est une biographie plus ou moins romancée, très certainement, mais qui vaut vraiment le coup parce que c'est une sacrée bonne femme. Je redonne les références, c'est Anne Bonny, d'Alessandro Rangaschi et de Matteo Mastragostino, toujours un problème avec l'italien, et c'est publié aux éditions La Boîte à Bulles. C'est un beau bouquin, je vous ai pas donné le nombre de pages, mais
ouais, il est beau, il est très
ça
grand.
Ça fait, hop, je dois avoir le nombre de pages quelque part, on est sur 144 pages, ouais. Donc ça fait un beau récit, et c'est vraiment très agréable.
Et il est complet ou
Ouais, c'est une histoire complète. Ah
ouais, c'est une histoire complète.
Ouais, ça commence par la fin. Je vous spoil pas puisque, enfin, c'est pas un spoil, mais on commence par Anne Bonny dans sa prison qui se dit bon, ben on n'a plus qu'à aller se faire pendre et elle se remémore en fait ce qui lui est arrivé.
Tout ça, ouais.
J'ai pas parlé des couleurs, mais ça marche très bien. On a des couleurs qui sont un peu crème et qui respirent le soleil.
Ouais, ça fait. Alors c'est plus pour moi, je vais parler plus en mode cinéma et tout ça.
Vas-y.
Ça fait plus penser à du western en fait, des couleurs très très sable, très.
Ouais, mais je suis d'accord, ouais.
Cendré, ouais.
Et ça va avec les tronches en fait dont je parlais tout à l'heure. Oui, il y a un côté très western là-dessus et qui marche super bien.
Même le ciel en fait sur la couverture,
ouais.
Pareil.
Ouais, effectivement, un ciel très sable qui rappelle un peu ce qu'on a pu avoir quand il y avait le sable du désert qui débarquait sur
Angers.
On n'est pas loin de ça. Autre salle, autre ambiance avec L'Arc-en-Cieliste de Cédric Mayen, de Roberto Ricci et Laura Iorio. Ça s'appelle L'Arc-en-Cieliste, c'est publié aux éditions d'Argo. Là, on est sur un ouvrage qui va se positionner entre plein de choses. On suit l'histoire d'un jeune lord anglais qui est un peu passionné par les arcs-en-ciel. Il kiffe ça. Et il va rencontrer un homme qui s'appelle Isaac Newton et qui va lui expliquer comment, à l'aide d'un prisme, on peut décomposer la lumière au spectre lumineux. Et les aléas de la vie font que ce jeune homme va être éloigné de Newton pour aller servir sa patrie en tant qu'espion dans une région que j'ai perdue, dans le Béarn. Et dans le Béarn, il va rencontrer... il a sa mission d'espionnage, mais il va rencontrer d'autres personnages. Il va arriver dans une zone qui est très... forgé de mythes, de légendes. Et il va rencontrer ce que tout le monde va appeler la pleuveuse, une fille qui est poursuivie par la pluie.
D'accord.
Lui, ce qui est rigolo, c'est que dans son pays d'origine, il était passionné par les arcs-en-ciel, il essayait de comprendre comment ça fonctionnait, il avait ce côté un peu scientifique, mais sa nourrice lui apportait aussi toutes les légendes irlandaises qui allaient avec.
Okay.
Le fait qu'il y avait un trésor au pied de l'arc-en-ciel, mais aussi un léprechaun.
Ouais.
Son père lui a raconté les histoires. Comment lutter contre un léprechaun. Le fait qu'il se rapproche de Newton lui a rapporté des bases scientifiques
okay.
sur ces phénomènes-là pour les comprendre. Et puis le fait d'arriver dans le Béarn, lui, il va rencontrer des phénomènes qui sont qualifiés de magiques, mais il va essayer de les appréhender d'un point de vue scientifique.
Mm-hmm.
Ce qui apporte un point qui est très intéressant à découvrir, et il a une pensée qui est quasiment philosophique, en fait.
Pareil, c'est juste un tome.
Pour l'instant, c'est qu'un tome. Je pense qu'il n'y aura pas de tome de suite derrière.
Excuse-moi, j'ai peut-être coupé.
Non, mais vas-y, il y a aucun problème avec ça. Je l'ai pas fini, pour être tout à fait honnête. Je comptais en parler parce que je trouve ça hyper intéressant. Il y a un traitement graphique qui est très particulier puisque chaque chapitre est découpé selon une couleur de l'arc-en-ciel telle que les a théorisé Newton. Et on finit par un petit épilogue qui regroupe tout, en fait.
Un épilogue, donc, j'imagine.
Ouais.
Oui.
Mais on peut avoir...
J'imagine.
je l'ai parcouru jusqu'au bout, mais j'aime bien le lire complètement. Et du coup, c'est vraiment très agréable. Graphiquement, c'est quelque chose de très joli. ceux qui connaissent un petit peu Laura Iorio, elle avait fait Le voleur de cœur, si je ne me trompe pas. Non, Le cœur de l'ombre, aux éditions d'Argo déjà en 2016, qui était un bouquin qui avait été vraiment très très classe. Et là, ça marche aussi très très bien. On se laisse emporter couleur après couleur, aventure après aventure et histoire après histoire avec ce jeune lord qui est tellement, comment dire, il est bienveillant comme garçon, ce qui fait qu'il pourrait même mettre en péril sa petite mission d'espionnage et sa vie simplement pour le bien de l'étude des sciences qu'il essaie d'avoir.
Je remarque que les chapitres sont séparés par des couleurs.
Oui.
C'est trop cool ça comme idée.
Chaque chapitre représente une des couleurs, ouais, de telles que Newton les a décrites au départ. Et ils sont tous dans la teinte colorée qui correspond à cette couleur-là.
D'accord.
Donc on a les fameuses sept couleurs de l'arc-en-ciel qui, si vous voulez compter, vous verrez qu'il y a un truc qui cloche. Mais non, il y en a pas sept.
Ah bon?
Bon, en fait, on en a beaucoup plus que ça, mais.
Ah, ok.
Mais oui. C'est vraiment très sympa. C'est un bouquin qui est ultra beau. Je sais pas ce que t'en as pensé. Alors...
Oui, il est beau. C'est une centaine de pages de ce que j'ai vu.
On est sur 96 pages,
ouais. C'est ça.
Donc, un ouvrage qui est plutôt sympa. Pas un gros ouvrage. En plus, là, la narration, elle est très fluide. C'est vraiment quelque chose qui va se lire très facilement.
Ok.
Ce qui n'empêche pas d'avoir pas mal de contenu, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est très souple et très agréable à lire. Et ça, c'est vraiment accessible à tout public. Et ouais, je le conseille vraiment. C'est vraiment un beau bouquin. Je redonne les références. C'est L'Arc-en-Cieliste. C'est scénarisé par Cédric Mayen. C'est storyboardé par Roberto Ricci et dessiné et colorisé par Laura Iorio. Si vous connaissez pas ces trois personnes, allez voir ce qu'ils ont fait d'autre. En règle générale, ce sont des choses qui sont vraiment stylées. Donc voilà. Ça va être juste pour de se refaire une petite pause musicale, parce qu'on parle beaucoup. On va être trop juste. Ce que je propose, c'est de continuer avec un peu de Coquinou, avec deux ouvrages plutôt pour les adultes. On va commencer avec le vif du sujet. Alors, c'est plus une. On va refaire une repasse dessus. C'est Interspecies Reviewers. C'est de Amahara et avec des dessins de Macha. C'est publié aux éditions Ototo. Donc c'est marqué derrière. Attention, pour public averti. Je voudrais rappeler le sujet. C'est un groupe de personnages qui, à un moment, sont en train de chercher comment se faire des sous, et ils se disent que il y a des bordels, donc des maisons sexuelles. C'est un univers d'heroic fantasy. Et ils se sont dit, on va tester les bordels d'autres espèces et on va faire le petit guide du routard de ces maisons closes. Et interespèces et reviewers, quelqu'un qui fait des reviews en français, je sais même pas, remarque.
Ça va être des critiques,
simplement des critiques. Et ils vont aller critiquer, ils vont aller voir ce que ça donne de faire l'amour avec une salamandre. Attention, spoiler, ça pique, ça brûle. Ils vont essayer plein de choses. Ce qu'on disait tout à l'heure, dans le tome 1, tu as ils vont aller dans une maison close pour anges. Et ce qui est très rigolo, c'est que graphiquement, ils ont masqué toutes les zones érogènes des anges par des petits éclats lumineux.
Ouais, c'est ça.
Ça marche très très bien.
Des auréoles.
Mais... ouais, des auréoles, et c'est super super drôle. Donc c'est Coquinou. Il y a des seins, il y a des il y a pas de gros plans sur des organes sexuels, hein. Ça reste quand même soft, d'où j'en suis rendu, mais c'est destiné quand même à un public averti. C'est très drôle. Ça se permet des vannes sur la sexualité qu'on n'aurait pas dans d'autres ouvrages, et ça pose aussi des questions, puisque ils sont suivis par un petit angelot qui peut choisir en fait quelle est sa sexualité en fonction de la personne qu'il rencontre. Donc ça pose aussi des questions sur la sexualité qu'on des questions on va dire modernes et d'époque. Donc c'est plutôt agréable. Et puis si la salamandre, vous avez parlé, il faut savoir que dans ce tome 1, au début, on a une sorcière qui a envie de tester un anneau de protection contre la chaleur. Et du coup, quoi de mieux que d'envoyer des héros réessayer de faire l'amour avec une salamandre, mais en étant protégé de la chaleur.
D'accord.
Puis le passage, petit anneau qui protège, qui peut faire aussi allusion à un préservatif.
Mais voilà. C'est ce que je te disais en off et tout ça. Pour le coup, j'avais déjà entendu parler de cette série, mais pas la version animée.
La version animée, ouais.
Et c'est fou, en fait, que je me rends compte qu'ils mettent du temps à le publier en français en livre, alors que la version animée est déjà disponible, tu vois. Alors que c'est sur des plateformes françaises.
Donc, ouais. Après, ça dépend des achats de droits, ça dépend de... Parce que le tome 1 d'Interspecies Reviewers a au moins 2 ou 3 ans déjà.
Ah ouais, d'accord.
Donc c'est vraiment quelque chose qui prend son temps à sortir. Faudrait que je revérifie plutôt que de vous dire des bêtises, mais c'est vraiment quelque chose qui prend son temps.
Okay.
Donc, ouais. Donc, si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous avez envie d'avoir un petit peu de coquinade, Interspecies Reviewers, c'est pour vous. C'est d'Amahara et de Macha. Ce qui peut être très rigolo, c'est si vous avez une table de jeu de rôle et puis que vous aviez envie d'épicer un petit peu les aventures de vos personnages, ben, n'hésitez pas à puiser des idées. Effectivement, un anneau de protection de chaleur permet de faire des choses avec des gens qui ne sont pas de la même espèce que vous. Voilà pour Interspecies Reviewers qui vient de sortir son tome 5. Toujours un peu coquinou, mais un peu différent. On va parler de Jumbo Max de Tsutomu Takahashi, qui est publié aux éditions Pika. Jumbo Max, c'est l'histoire d'un pharmacien qui est moche. Soyons honnêtes, il a vraiment rien pour lui. Graphiquement, il est gros, il a un double menton. Quand il est dessiné, il a des yeux exorbitants, exorbités. Enfin, c'est vraiment il est très très laid. Et il va rencontrer une jeune femme à qui il va plaire, qui va demander à le revoir. Et puis, quelques mois après, ils vont décider de se marier. Il va faire une cérémonie de mariage avec des copains à elle. Il va un petit peu abuser de l'alcool. Et puis, le soir venant, il se passe ce qui doit se passer, quoi. Et quelques mois plus tard, sa femme lui annonce qu'elle est enceinte.
Oui, je lis le synopsis en même temps et je vois où. Ouais, okay.
Tu vois où tu.
Ouais, ça, ouais, je vois. Voilà. Où, ouais. Ok, ouais. Vas-y.
Continue. Et là, il avoue à sa femme que
c'est pas possible.
Ça fait depuis qu'il est petit, il a jamais eu d'érection. Il peut pas. En fait, mécaniquement, il ne peut pas. Et du coup, lui, enfin, il l'avoue pas à sa femme comme ça direct. Ça lui pose un problème. Et puis, ce monsieur-là, ce pharmacien-là, il loue des logements à des gens, parce qu'il a des logements qu'il loue, et en débarrassant des logements, il tombe sur un vieux monsieur dont la fille faisait du film pour adultes. Et dans les affaires de sa fille vont se trouver quelques pilules.
Ouais.
Et des pilules qui sont censées aider à avoir le bambou tout dur, si je peux me permettre cette expression-là.
Il indiquait une pilule illégale.
Une pilule illégale, ce qu'il y a, c'est que c'est pas une pilule officielle, il n'y a pas de marque, rien.
Okay.
Et il n'est censé y avoir que les pilules qui étaient dans cette boîte-là.
Okay.
Et il va en ingérer une, alors je vous passe les péripéties, et par miracle, ça a un effet sur lui. Alors il a tout essayé, je vous cache pas, quand t'as 40 et quelques années et que t'as jamais eu la moindre érection, t'essayes de trouver des trucs pour que ça marche. Et là, ça marche. Et mentalement, lui, ce qu'il veut arriver à faire en tant que pharmacien, c'est retrouver ce qui fait que ça fonctionne sur lui pour pouvoir le commercialiser. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on va se retrouver dans quelque chose qui va... Alors, on est loin de Breaking Bad, hein, il va pas faire de la drogue, il va pas devenir un baron de la drogue, ça reste un gros nulos. Hein. Mais il va se confronter à des personnages, il va sortir un petit peu de lui, de sa zone de confort pour arriver à faire cette pilule et comprendre comment ça marche. Et on nous explique aussi comment fonctionne une pilule. Comme ça, on a des bases de science, alors c'est très léger, mais c'est plutôt bien amené, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt cool. Donc c'est une vraie petite surprise, je savais pas trop ce que j'allais en attendre en le lisant, et on a envie qu'il y arrive, parce qu'il part vraiment de loin, il a pas grand chose pour lui, et on a envie qu'il réussisse, donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Donc n'hésitez pas à y aller, Jumbo Max. Le dessin marche bien, hein. C'est pas le dessin le plus fou du monde, mais ça sert l'histoire, ça roule bien et c'est plutôt cool. Donc voilà, faut pas hésiter à y aller. Je vous donne les références. C'est Jumbo Max, c'est publié aux éditions Pika. C'est de Tsutomu Takahashi.
Je suis en train de regarder apparemment.
C'est plutôt cool.
Je suis en train de regarder apparemment, il y a déjà 8 tomes en version originale, mais c'est pas encore terminé.
Ouais, on est sur une série en cours, 7 tomes. C'est publié au Japon chez Big Comics. J'avais tout ça là, sur la petite fiche.
Mais moi, j'avais sur Internet.
Allez.
That's all, folks.
Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Il nous reste que quelques minutes ensemble. Ça passe vite, n'est-ce pas, Richard?
Ouais, et en vrai, c'était cool. Tu m'as fait découvrir des trucs et j'espère que ma présence...
Ça gêne pas. Moi, je fais découvrir... Le but, c'est de faire découvrir aux gens. Donc, les portes sont ouvertes. Si vous voulez faire comme Richard, venir assister à l'émission, n'hésitez pas à venir toquer à la porte un lundi tous les 15 jours de 19h à 20h. Ça me fait plaisir. Si vous voulez faire des chroniques, lire des livres et puis me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait plaisir aussi. C'est l'émission, elle est là pour ça. Partager nos lectures, c'est vraiment du conseil de pote à pote. Donc okay. C'est ça qu'il faut faire. Donc c'est plutôt cool. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci Richard d'être venu. Yeah. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle case de Seb. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Mardi de 22 à 23h pour les voix du scénarium. Et puis en attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital,
c'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Il n'est pas chez toi ici!
Juste en! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? C'est fini! Rentre chez toi!
In all the stories, 'cause I couldn't stand to fight. I was so tired of hanging on to that last bit of light. Oh, but it was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. Yeah, it was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark.